J'entre dans cette cuisine quand le premier ding-dong retentit. C'est réglé comme du papier à musique, ces choses de la vie. Entre 8h et 8h30, ça cogne au clocher. Sans discontinuer, ça cogne à toute volée, tous les matins du monde, même le week-end, surtout le dimanche avant la messe. Ça cogne, et les villageoises violentées, les ménagères ensommeillées, les fourbus, les abattus, les épuisés, toutes sont forcées de se redresser et s'extirper du lit pour préparer enfants et café. Chose que je fais moi-même ce matin, puisque clown parti, je suis seule à pouvoir le faire. Je presse du bout du doigt le sigle on-off de notre Philippe d'occasion. Le bouton clignote et verdit, le moteur vrombit, les grains de café sont aspirés dans un siphon pour y être moulus, et un liquide, dont la couleur progresse du beige clair vers le noir absolu, se déverse en fumant dans ma tasse. Un jour sur deux, je me brûle la langue. Ce matin, je redouble de prudence. Je souffle à la surface du café en veillant à ne pas éclabousser mon peignoir. Je souffle, et si ténue soit-elle, mon expiration provoque des remous, des vaguelettes, la formation de cercles qui vont s'élargissant du centre vers le rebord de ma tasse. Pas n'importe quelle tasse, cependant, celle dont je me sers tous les matins depuis 10 ans, qui m'a été offerte pour mon anniversaire par un ami retrouvé mort d'un infarctus, on a supposé, dans le lit de sa maîtresse, supposé aussi. Objet usuel ayant acquis le statut de survivance et que je manipule avec la déférence précautionneuse, peut-être même un peu superstitieuse, qu'on réserve aux reliques. En me regardant déballer la tasse qu'il venait de m'offrir, mon ami m'avait recommandé ce soir-là de ne jamais le passer au lave-vaisselle, sous peine d'abîmer la photographie qu'il avait choisie pour la décorer. Un portrait de mon père, du temps où mon père ne savait déjà plus qu'il souffrait d'Alzheimer. Cette image lisse et douce m'a déplu dès que je l'ai aperçue. J'ai détesté chaque détail du visage émacié, des cheveux fins et clairsemés à la barbe trop bien taillée pour être celle de mon père. J'ai détesté le front luisant et creusé de sillons. J'ai détesté les yeux renfoncés, leur sclère jaunâtre, le regard opacifié par la folie bien plus que par la cataracte. J'ai tout détesté de cette photographie qui, en 10 ans, ne s'est pas abîmée, pas même légèrement usée, délavée ou craquelée. Forcément, je respecte les morts et les fous, et je n'ai pas de lave-vaisselle. Les mains pressées sur le visage d'un homme qui lui ressemble mais qui n'est pas papa, j'aborde l'opération de refroidissement de mon grand café noir. Je souffle, et la mousse de lait frémit et se déchire comme l'écume. Des ondes parfaitement rondes surgissent et s'élargissent à la surface du liquide, et leurs mouvements concentriques, alliés à l'odeur du café, m'hypnotisent. Je rêvasse, je m'enfonce. Dans mon rêve, je suis assise au creux d'une barque, c'est plutôt un coffret, un berceau, une coque dont je serai le cerneau, qui dérive sur un étang entouré d'arbres plantés en rang serré. Il y a autour de moi des érables poussés en bouquet, des aulnes, des hêtres étonnamment vivants et des saules qui forment un dôme au-dessus de mon corps, sorte de chapiteau désert où m'abriter. Mon embarcation ballotte au gré de courants invisibles et pénètre sous la houppe d'un être pleureur. Je n'en ai jamais vu d'aussi triste. L'eau qui m'entoure est noire, goudronneuse. Elle brille comme de l'huile. Dans un fourré, un oiseau pousse un cri d'alarme et ce cri progresse avec le vent. Crescendo. À travers le feuillage du être majestueux qui, je le soupçonne, est de bois précieux et le gardien en ces lieux, je constate que le ciel tourne à l'orage. Au creux de mon corps étranger, à la fois lesté et sans consistance, le songe menace de tourner. Je pourrais lutter, sans doute, opposer une résistance à ce pourrissement de tous mes sens, mais je choisis de me laisser aller. Au-dessus de mon visage, des nuages s'assemblent et forment une panse striée de rouge et d'or. Les ardes, dont la fréquence et l'intensité laissent présager que la bedaine amassée est sur le point de crever. Des oiseaux s'envolent et plombent le ciel d'un soleil noir remuant constamment. J'ai le tournis quand la pluie se met à tomber dru. Des eaux sales s'accumulent au fond de mon bateau berceau et je voudrais écoper, mais mes jambes et mes bras demeurent paralysés. À la surface de l'étang, Des cercles se forment, s'élargissent et se brisent, et se forment et s'élargissent et se brisent. Et la barquette se met à tanguer. Mollement d'abord, puis de plus en plus fort. Ça se coud, mais je n'ai pas peur. Je ne tente rien, tant il est évident que la situation m'échappe. Les mains plaquées et comme agglomérées au rebord de mon embarcation, j'observe le monde, les arbres, le ciel et l'eau tournoyer. Les hêtres se penchent au-dessus de ma tête, et dans leur feuillage noir et touffu, le vent passe, bruit, siffle, comme s'il voulait me chasser d'ici. la coque où je repose louvoie vers un trou qui tournoie lui-même au centre de la surface noire. Et j'ai la nausée, mais je ne crains rien. Au moment de sombrer dans le trou creusé en entonnoir vers le sol de l'étang, je m'étonne seulement que l'eau soit si chaude. Ma tasse, réinventée en 7 ou 8 morceaux, gît entre mes pieds dans une mare de café froid. Je glisse mon gros orteil dans l'anse encore d'un seul tenant et songe que cette anse indemne est une sacrée chance, qu'il ne faut pas se fier aux apparences, que je pourrais recoller les morceaux, demander au clown de passer un peu d'or aux jointures du collage. Le clown est un artiste après tout. Il a restauré des sculptures et des stèles. Il arrondit nos fins de mois en redorant à la feuille les inscriptions passées des monuments aux morts. Pourquoi les cicatrices de ma tasse n'auraient-elles pas droit, elles aussi, à l'un de ces fins feuillets carrés d'or 24 carats ? Permets-moi, je t'en prie, Marie, pour une sombre histoire de clown. Comprends une fois pour toutes que pour moi, ces histoires de clowns n'ont aucune importance. Que vous ayez baisé tous les deux, j'en ai rien à foutre. Que le clown t'ait baisé avant de me baiser à mon tour, vos 19 ans de vie commune, vos 19 ans de baisage commun, votre rencontre quand vous aviez 5 ans, ce mythe et tous les autres, et tout ce qui fut vôtre, votre vie à Bruxelles, vos appartements, vos terrasses, vos balcons, vos déclarations, vos promesses, votre mariage, tes anglaises et les siennes, vos amis, les soirs de fête, les soirs de semaine, vos réveillons, l'ivresse, votre désir, votre jeunesse. Comprends une fois pour toutes que j'en ai rien à foutre. Je ne suis pas ta rivale, Marie. La vie que tu as ratée avec le clown ne fait pas de moi ton ennemi. Ce rôle de femme adverse, de femme amère, de remplaçante, le personnage de marâtre qu'on m'assigne parce que je suis la deuxième, pas même assurée d'être la dernière, je n'en ai jamais voulu. Je n'ai jamais rêvé de ça. Mais quelle fille rêverait de ça? Je ne suis pas une marâtre. Il n'y a pas de marâtre sur Terre, mais Marie, comprends-le. Et tu le comprends certainement. La femme qui débarque 20 ans après l'autre et ramasse qui sont tombés par terre les fruits gâtés de la première. Est-ce que c'est une marâtre? Et si ces fruits tombés du ventre d'une autre, la deuxième femme les imbime un peu en tentant de les reconnaître, est-ce que c'est une marâtre? Mais qu'est-ce que ça veut dire, marâtre? Il n'y a que des filles, il n'y a que des femmes, il n'y a que des mères. Toutes plus ou moins mauvaises, défaillantes, hasardeuses. Non, Marie, tu n'es pas meilleure que les autres. Tu ne vaux pas mieux que moi, qu'est-ce que tu crois? La maternité? Ta maternité? Tes enfants? Ah, comme je les aime, mes petits. Comme ils me ressemblent, ils sont à moi. Il n'y a que moi pour les aimer comme ça, il n'y a que pour être aimée comme ça par moi. Comme les femmes peuvent se leurrer, comme elles peuvent croire. L'instinct maternel, il n'y a qu'un père, il n'y a qu'une mère, il n'y a qu'un ventre. Pourquoi est-ce que vous accordez autant d'importance aux histoires de sang? La grossesse, l'hérédité, l'ADN, les gènes. Oh, si tu savais comme elles m'épuisent, cette rengaine. Si tu savais comme je peux les aimer, tes enfants, et comme ça peut être indépendant d'une histoire de sang. Si les gens pouvaient piger une fois pour toutes que l'amour maternel ne se crée pas dans les douleurs de l'accouchement. Je suis devenue mère une première fois à 26, 27 ans. Ah, c'est très jeune. Ça a été très difficile. Tu vois, Marie, je te parle parce que je t'aime beaucoup. Je peux te le dire maintenant. Maintenant, je veux que tu m'entendes. Ça n'a pas été évident avec tes enfants. Rien ne sera jamais évident avec tes enfants. Très tôt, j'ai su que j'étais condamnée à aimer ta couvée si je voulais avoir une chance de me marier et de me faire aimer de ton ex-mari. Comme tout est toujours à toi, tu vois. Je me suis fait violence. Je me suis ouverte, comme une sorte de mer rouge. Je me suis écartée, fendue en deux. J'ai laissé venir à moi tous tes petits-enfants. Je leur ai livré le passage, comme mon instinct de femelle affamée m'ordonnait de les dévorer ou les abandonner, hors des limites de mon territoire, loin, très loin de leur père, mon amour. Je me suis condamnée à aimer des enfants qui ne m'aimeraient jamais et qui n'y pourraient jamais rien. Des enfants que j'élèverais avec toi et pour toi, et pour qui tu resterais la mère entière, Marie, toute la mère à boire, la sainte mère auréolée d'absence et de gloire, quand moi, la marâtre, comme on dit dans les contes, la mauvaise, la méchante, la sévère, la belle-mère, mi-mère, intérimaire, amère, mère bricolée à trait d'union, je n'aurais pas droit à ma moitié d'amour. Loin de moi, désormais trop loin. L'homme demeuré torse nu sous un boléro léopard lance des cerceaux à sa partenaire qui se les enfile et les fait tourner sur son corps partout où c'est possible. Autour du cou, des bras, des chevilles, sur ses hanches. En lui-même, ce numéro de Hula Hoop n'a rien d'exceptionnel. Il est plutôt banal et grossièrement scénographié. Mais il y a un mais, bien sûr. Mais il y a Betty. Mais Betty est belle. Mais sa beauté fait tout. Mon fils la dévore des yeux. Son petit corps figé sur mes genoux dans une attitude d'adoration qu'en 2 ans et demi de sa courte vie, je n'ai jamais suscité. Moi-même, je ne sais plus où donner de la tête. Regarder qui que quoi donc où. J'ignore qui me séduit le plus, de cette danseuse ou de l'homme qui lui tourne autour en criant « Ya, ya !» comme un dompteur crie pour faire travailler sa bête. Ils sont vifs, ils font l'affaire, ils font la paire, me font de l'effet. Bœuf, boule de neige, c'est du pareil au même. Ça me torpille, ça me bousille, ça me boute le feu aux joues et même un peu aux fesses. Avant d'avoir pu prévenir le danger, je sens mes yeux se mouiller et ma gorge se serrer et je m'interroge sur le mécanisme de resserrement de mon œsophage. La nature de cette boule dans ma gorge, les nerfs incriminés. Je serre les dents, je grince, je bruxe. J'ai mal à la mâchoire, à l'oreille gauche, à la nuque, enfin partout. Seconde après seconde, cerceau après cerceau, je mesure l'étendue de ma frustration. Ah, c'est pas joli joli à voir. Je suis jalouse, à en faire trembler les jambes, à en faire crever les gens. Je voudrais tuer Betty, 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 ad libitum. Je veux être à la place de Betty, je veux être Betty. Peu importe qui elle est. Qui elle est, je n'en ai strictement rien à foutre. C'est à moi que je pense. Moi, 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 et nul autre. Je veux être au centre de la piste. Moi. Au centre des attentions. Moi. Sous les yeux du dompteur. Je veux exister, je veux bouger, danser, bondir au son de ces ya. Et qu'il me dise encore, comme lorsque nous étions à deux au bord de l'enclos des lamas, moi, je te vois. Où je suis, et partout ailleurs, je le sais, je suis invisible. Une poussière incrustée au coin de l'œil, irritante, mais sans réelle importance. Toujours en dehors du champ, hors du cadre, reléguée au gradin, à l'obscurité, à mes maternités, mes amertumes de marâtre. Serrée dans mon chemisier Jessica, ma jupe paprika, mes fringues de grosse, mes linges cache-misère, je me cache-cache de mon corps usé, cellulitique, déformé par l'excès de graisse et les grossesses. Et j'observe Betty. Les petits seins de Betty, le ventre plat de Betty, la taille fine de Betty, les cuisses musclées, luisantes de Betty. Betty provocante et désirable, Betty baisable entre toutes. Cette Betty à la fois affolante et rebutante qui me cloue le bec. Et je repense à l'enfance, à la jeunesse. Je repense aux rêves qu'on faisait, auxquels on croyait dur comme fer, mais qu'en a-t-on fait? Je repense au possible, au talent, au pouvoir, à l'avenir, à l'envie. Je repense à la gamine qui rêvait d'être comédienne, de crever l'écran, de briller sur scène. Je repense à la femme qui rêvait d'être écrivaine et de livrer des livres comme on livre une bataille. Cette femme qui a choisi de livrer des enfants et qui se bat, sans doute, mais qui n'écrit plus, qui ne lit plus, qui n'essaye plus de trouver le temps de lire, qui a toujours autre chose à faire. Cette mère ménagère qui a remplacé le théâtre et Faulkner par les dépliants promotionnels du Carrefour Market et de l'Intermarché. Avec vous pour une vie moins chère. Oh, certes. Si l'on s'en tient aux critères édictés par la Société des bons pères publicitaires, cette ménagère a une vie exemplaire, organisée, ordonnancée bien comme il faut, régentée en bonne mère de famille, petite vie nette, vignette digne d'être collée dans l'album des maternités les plus parfaites, The True Mother Show. Tout le monde s'accorde à le dire, les experts, sa mère, ses voisines. La vie de cette femme est nickel. Mais moi, le nickel, j'en ai rien à foutre. C'est de l'or que je veux. Mais où est donc Ornicard ? Je regarde la danseuse qui se trémousse l'air de rien et une vague de sanglots trémolos me submerge. Je me noie. Oh, bulle, bouche ouverte, patauge dans mes eaux amères, mes sombres sécrétions. Je suis mouchée et bouche cousue. J'avale de travers, je tousse, je mousse, j'écume, j'en bave à la fin. Bien sûr, j'en bave. Dans un « ya » plus long que les autres, le dompteur balance toute la sauce à Betty qui s'enfile 13 cerceaux à la suite. Quand la musique de fou s'arrête enfin, la danseuse lève ses deux bras bronzés dans un geste qui lui affine encore la taille. Ses hanches diablesses s'immobilisent et les cerceaux, 13 cercles de mes enfers, retombent dans un bruit de ferraille ou de vaisselle. Et les enfants hurlent et je veux croire que ce sont des hurlements de joie.